Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 1, épisode 33. Une Heure en Série, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues. Et ce soir, nous parlerons rap viril et industrie musicale avec Validé sur Canal+, club de jazz enfumé et polar urbain avec Ziedi sur Netflix, et enfin ville minière enclavée et meurtre au monoxyde de carbone dans The Wall sur 13e rue.
Une Heure en Série. Xavier Le Herpeur.
Et avec moi ce soir, hélas, toujours pas autour de moi, mais pas très loin, les confinés Marjolaine Boutet de Phosphore, que l'on est ravis de retrouver. Bonsoir Marjolaine.
Bonsoir Xavier, bonsoir à tous.
Christine Haas, bonsoir Christine.
Bonsoir à tous.
Et enfin, évidemment, le tonitruant, l'indispensable Benoît Lagarde, que l'on retrouve tous les vendredis matins pour un réveil en fanfare dans le 5-7 de Mathilde Munot. Bonjour, bonsoir Benoît.
Salut Xavier, salut à toutes.
Allez, tout de suite, on commence avec le premier débat, une série qui a fait un carton plein Validé, série de 10 épisodes de 30 minutes, précédemment diffusée sur Canal+, série ainsi que sur MyCanal, et disponible désormais depuis lundi dernier sur Canal+, ce qui nous donne l'occasion de revenir, je vous le disais, sur un des plus gros succès de la chaîne, avec plus de 20 millions de visionnages revendiqués pour la série de Franck Gastambide, acteur metteur en scène, auquel nous devions déjà les Kaira et Taxi 5. Un coup du hasard propulse le jeune Clément, également connu sous le pseudo d'Apache, jusque-là livreur-dealer, sur le devant de la scène hip-hop. Mais notre Candide est pris en étau entre deux producteurs. D'une part, Mounir, trafiquant notoire qui veut profiter de l'occasion pour blanchir l'argent de la drogue, et d'autre part, une maison de disques qui souhaite surfer sur le succès du jeune chanteur naissant, mais sans débourser un sou.
T'es chaud, on te balance une instru ?
Ouais, on peut essayer, ouais.
Ok, allez, c'est parti, instru maintenant.
Force mon refrain.
Ce game, tu l'oublies. Sinon, je vais te faire une guerre, t'es pas prêt. T'as compris, là ?
Une immersion dans un monde de mâles où la testostérone coule à flot, où la rivalité est incessante, où les trahisons se multiplient et où il faut tuer le mentor avant qu'il ne vous exécute. Une série qui évoque également, et c'est là l'un des thèmes de prédilection de son auteur, les réalités sociales et les inégalités économiques des banlieues françaises. Je saluerai enfin pour ma part, dans le rôle principal, le charisme d'Attic, rappeur reconnu et comédien prometteur, qui compose ici un très subtil mélange d'ambition carnivore et de naïveté attachante. Du côté de la presse, Libération, Franck Gastambide joue avec les clichés d'un milieu que les exagérations verbales et les postures avantageuses n'effraient pas. Le Point souligne qu'en 10 épisodes courts et percutants, le réalisateur dresse un portrait acéré du milieu du hip-hop français. Et enfin, L'Obs, Validé, est une série nerveuse et efficace, oscillant entre polar et peinture minutieuse de l'industrie musicale. Alors, ça sent le mal, ça sent la testostérone, ça sent la sueur, ça sent la rivalité. Donc évidemment, c'est pour Marjolaine. Qu'avez-vous pensé de Validé ?
Ah bah évidemment, j'ai adoré et les critiques sont tout à fait justes. C'est une série qui rend hommage et qui tient d'abord sur le charisme formidable de ces rappeurs, parce que le rap, c'est du charisme, c'est de l'expression, c'est de la prise de parole. Et vous avez parlé effectivement de la révélation de la série qui est Attic, mais il y a aussi évidemment Moussa Mansali, qu'on a déjà vu plusieurs fois au cinéma, qui est un rappeur de métier et qui a écrit la plupart de la bande originale de la série, et ça porte l'écriture aussi. L'écriture est formidable, les scénaristes sont formidables. Franck Gastambide a été épaulé par un pool de jeunes scénaristes, dont Nicolas Lacarrière, qui à mon avis va faire beaucoup parler de lui dans les années qui viennent, et qui est un scénariste dont révélé par la FEMIS, le parcours créateur de série, et qui vient lui-même de la banlieue. Et Validé, c'est une série qui parle évidemment de rap, mais qui parle aussi, et moi c'est ça, de l'industrie de la musique, mais qui parle aussi de la célébrité dans ce monde 2.0 où le moindre buzz, le moindre like, le moindre tweet fait monter et descendre les cotes de popularité des artistes. Et je trouve que c'est ça aussi qui est très très fort dans cette série, qui est très rythmée, ça va très vite. Et on voit bien ces ascenseurs émotionnels, c'est un terme à la mode aujourd'hui, mais dans lesquels doivent passer ces jeunes artistes qui prétendent à la célébrité ou en tout cas à la reconnaissance. Et je trouve qu'on voit bien voilà, la différence entre cette recherche de célébrité et d'amour d'un public anonyme et aussi le rôle de la cité, des amis qu'on connaît, de la famille, des copains qu'on va forcément quitter et en même temps auxquels on reste lié. Et je trouve que ça fait une série dramatique formidable. On pense à 8 Mile et la fin est dingue et donc c'est une super série.
Quel enthousiasme! Christine Haas, êtes-vous du même avis que Marjolaine?
Bah oui, alors vraiment complètement. Moi, j'ai adoré Validée, d'abord parce que j'aime beaucoup le rap, et c'est vrai que c'est la première fois qu'une série française traite du sujet en assumant vraiment pleinement tous les clichés et les stéréotypes. C'est une série générationnelle, on va dire. Et en même temps, Franck Gastambide, il ne faut pas lui demander de faire autre chose que ce qu'il sait faire. C'est vraiment le champion de la comédie potache, hein, les Keira, tout ça. C'est son truc, c'est le spécialiste des histoires de potes de quartier. Hein, on rappelle Pattaya aussi. Et puis, il a participé très jeune à des clips de hip-hop. Et en gros, le monde de la musique, les quartiers, le rap, c'est vraiment son univers. Et moi, j'ajouterais effectivement à la collaboration qu'a mentionnée notre camarade, Xavier Lacaille, qui est ce jeune acteur qu'on a découvert dans Parlement et qui lui aussi fait partie de l'équipe de création qui est de cette nouvelle génération de scénaristes formés à la Fémis. Il est absolument formidable. Et puis, autre chose, Validé s'inspire clairement, il n'a pas lié de la série américaine Entourage, où un jeune acteur va s'imposer dans l'univers impitoyable de Hollywood, mais n'oublie pas ses origines et vit son aventure entouré de ses amis d'enfance, originaires du Queens comme lui. Donc ça, c'est un peu, c'est les mêmes personnages, c'est le même sujet. Entourage était déjà aussi partiellement autobiographique, produit par Mark Wahlberg, qui avait été lui-même délinquant, fait de la prison, débuté comme rappeur avant de devenir l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Donc, c'est vrai que Validé reprend la formule, la transforme en installant son rappeur dans un quartier de banlieue où se côtoient les petits dealers et les gros mafieux. Et c'est vrai bon, que les quartiers survivent en grande partie grâce au trafic de drogue. C'est aussi de ces quartiers que viennent les rappeurs. Donc la série se veut réaliste. Elle n'oublie pas tous ses aspects négatifs. Et en même temps, elle nous fait découvrir un univers formidable où le culte de l'image, le buzz, la stratégie, le contre-buzz, les coups bas, les opérations de marketing, et finalement, parfois le fond importe moins que la forme. Alors ça, il nous le montre bien. Et Gastambide s'inspire de nombreux événements réels sur les clashs, comme par exemple l'affaire Boubacaris, les vols de chansons, les vols de trophées, les conflits, les règlements de comptes. Et en même temps, moi, je me suis beaucoup amusée à voir comment se passent les enregistrements live de l'émission Planète Rap, par exemple sur Skyrock, comment on travaille avec un beatmaker, qu'est-ce que c'est que le freestyle. Et comme on a beaucoup mentionné les acteurs, je voudrais quand même, dans cet univers très macho, souligner qu'il y a Sabrina Ouazani, qui est une très forte personnalité, qui compose une directrice artistique vraiment très crédible.
Je suis entièrement d'accord, mais c'est un petit peu, moi, ce qui m'a gêné dans la série, c'est que les personnages féminins sont un tout petit peu, alors les personnages masculins aussi, mais un peu plus pour les personnages féminins, un peu archétypaux, un peu systématiques. On a la mère, effectivement, dévouée pour laquelle on va essayer de se sacrifier. On a, effectivement, cette directrice de studio, mais voilà, je trouve qu'elle est un petit peu écrite à la truelle. Moi, ça m'a un petit peu gêné, quand même. Ce manque d'étoffe des personnages féminins m'a un tout petit peu déçu. Mais Benoît, vous allez peut-être me contredire.
Je suis assez d'accord sur les personnages féminins, mais peut-être que ce sera présent dans la saison 2. Mais c'est vrai que cet univers peut être féminin, bien évidemment, le rap, mais il est dans un premier temps très masculin, et je pense que c'est ça que Gastambide veut montrer aussi par rapport à cette bande de potes. Alors moi, j'ai plutôt aimé Validé. Je suis pas du tout fan, comme Christine, de rap. Hein, franchement, moi, en général, j'ai du mal à écouter. Alors j'ai regardé la série avec mon fils qui était dingue, tellement il y a des guests et il reconnaissait au moindre plan telle ou telle star du rap qu'il adore. Et malgré le fait que moi je n'aime pas trop cet univers, ben, j'ai été complètement embarqué, et notamment par les moments musicaux. D'ailleurs, j'aurais aimé presque qu'il y en ait plus de ces moments musicaux. J'aurais aimé qu'on nous montre encore plus la création, ce qui se passe dans la tête en fait de ces auteurs étonnants que sont les rappeurs. Alors la série parfois du coup va plus vite que la musique, ça va très vite, parfois peut-être un peu trop vite. Du coup, tout l'univers que vous avez très bien décrit jusque-là est très présent dans la série, mais voilà, moi, j'aurais aimé peut-être un peu plus encore de milieu, de la description du milieu musical, peut-être un peu plus de choses tendres dans les relations entre les personnages pour qu'on prenne un peu le temps de respirer. La série va à 100 à l'heure, on reconnaît bien là le style de Gaston Bide, et ça manque pas de gueule, ça manque pas de panache, ça manque pas de charme, donc je valide complètement cette saison 1 en espérant que dans la saison 2, la série aille dans un peu plus de tendresse, un peu plus de féminité, un peu plus de création musicale et d'artistique.
Merci beaucoup à vous trois, déjà, pour ce premier débat. Donc, validé sur Canal+, depuis le 11 mai.
Appelle-moi à pas, je sors de mon Tipeee. J'ai le regard tout triste depuis que mon daron est dit par qu'il a lâché ses types sur le terrain malgré mes 12 piges. Quand tous mes potes s'amusent, la rue a déjà tué mon enfance, donc t'appelles pas le Samu. Maman bosse, son fils bosse, mais c'est pas le même Zeyo. Je suis dans le bunk, je vends la drogue, je me vois déjà tête du réseau. Avec mes rayons barreaux, dans les couilles quelques barreaux. Et si t'es bon, je te fais un tarot, je te tape comme les paos. Et ça fait. Je sors de mon Tipeee. Je sors de mon Tipeee. Je suis dans mon hall et je rêve d'être sur une plage. AMTP. Suffit d'une sirène et ta vie change en une heure. Je me revois sur le banc de la prison pour mineurs. Me noter au milieu du Jackson parce que j'ai du pilon dans le casson. Le bandit a tué le garçon. Je peux te monter en l'air pour un klaxon. Me noter au milieu du Jackson parce que j'ai du pilon dans le casson. Le bandit a tué le garçon. Je peux te monter en l'air pour un klaxon. J'ai tellement compté de Zéo que j'en ai des crampes. La rue la vraie pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma soeur, moi je veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs. J'ai tellement compté de Zéo que j'en ai des crans. La rue la vraie pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma soeur, moi je veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs.
Voilà, nous venons d'entendre Attic, qui tient donc le rôle principal de Validé. Il interprète Prison pour mineurs. C'est l'un des titres phares de la série, extrait donc de la bande originale de Validé. Et si Clément Attic avait envie de se tourner vers une carrière d'acteur, c'est en tant que rappeur qu'il a débuté sous le pseudonyme donc d'Attic. Il enregistre ses premières chansons à l'âge de 15 ans. 12 ans plus tard, il a déjà 3 mixtapes à son actif, dont la dernière, Chaise pliante, sortie en 2019, qui propose un concept étonnant et reposant. Attic rap assis sur une chaise pliante. Pourquoi pas ?
France Inter. Une heure en série.
Deuxième débat et autre série musicale avec The Eddy sur Netflix, une série de 8 épisodes disponible depuis le vendredi 8 mai sur la plateforme Netflix. Sans doute une des séries les plus attendues de l'année, en tout cas les plus survendues par Netflix, puisque réalisée au moins pour les 2 premiers épisodes par Damien Chazelle, le jeune prodige franco-américain, auteur de la comédie musicale La La Land, écrasant succès au box-office international et qui avait valu à son auteur de remporter 6 Oscars, dont ceux du meilleur film musical et du meilleur réalisateur. Citons toutefois les autres cinéastes qui ont participé à The Eddy. Les épisodes suivants ont été réalisés par Ouda Benyamina, qui avait réalisé Divine, Laila Marakchi, qui avait signé Rock the Casbah, et Alan Poole, qui avait signé The Newsroom et Tales of the City. Soit l'histoire d'un club de jazz baptisé The Eddy, situé en plein cœur de Paris, un haut lieu de la musique indépendante, géré par Farid, interprété ici par Tahar Rahim, auquel le propriétaire du club, un afro-américain, vient rendre visite lorsqu'il apprend que le club risque la faillite. Bien sûr, Farid a emprunté de l'argent aux mauvaises personnes, mettant ainsi en grave péril le club. Difficile d'en dire plus sans divulgâcher le stupéfiant effet de surprise du premier épisode.
Farid's involved in something, and I'm worried that they might try and do something.
Can't tell the police.
No, I can't tell the police. They'll shut us down.
You get inside now.
On peut pas se permettre d'être mauvais.
I really love making music with you.
There are people who are depending on that club.
This is all I got.
You understand?
This is it.
Un scénario signé Jack Thorne, une grande plume de la série et du théâtre. On lui doit entre autres l'adaptation pour la scène de Harry Potter et l'enfant maudit. Et côté petit écran, il a signé l'excellente série de fantômes de Fades et le plus décevant à la croisée des mondes, d'après les romans de Philip Pullman dont nous avions parlé précédemment. Côté presse, ben c'est mitigé. Le Parisien est enthousiaste. La première série écrite pour Netflix par le réalisateur de La La Land est aussi libre que le jazz qu'elle exalte. Un thriller affranchi des règles du genre dans un Paris contemporain. Libération est plus mitigée. Damien Chazelle se téléporte dans le Paris du jazz contemporain au gré d'une fiction policière moins convaincante que les belles séquences musicales qu'il s'accorde. Et le JDD, en revanche, est très réservé. L'histoire part rapidement dans tous les sens entre chroniques sentimentales, imbroglios familiaux et intrigues policières. Les acteurs ont du mal à donner de l'épaisseur à des personnages qui courent trop après leur vie. Donc, chère Christine, je vous sens prête à débattre sur The Eddy. La parole est à vous.
Oui, alors c'est vrai que... Comment le dire poliment C'est vrai que pour Damien Chazelle, le monde est une scène où il a un peu tendance au remplissage. On est ici dans son Paris fantasmé des quartiers populaires, des graffitis, des trains qui passent en arrière-plan, avec une population aux origines multiples qui chante dans les rues, qui danse en vendant des sandwichs. Bref, on est dans un décor où son fétichisme s'installe pour rendre un hommage appuyé au jazz parisien tel qu'on l'a vu dans des films cultes, que ce soit Paris Blues avant, ou Cold War plus récemment, notamment à travers le personnage incarné par Joanna Coolidge, qui est ici pour moi une caricature de la chanteuse paumée, aussi désincarnée et vidée de sa substance qu'elle était passionnée et magnifique
merci,
dans Cold War.
Merci Christine.
Je vous en prie, je poursuis. Chazelle retrouve aussi sa mise en scène tapageuse, qui clignote de partout, cinéma d'auteur à la française. On s'attend à tout moment à ce que le personnage insupportable de la fille rebelle de 16 ans ne se mette à geindre. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. De la même manière, André Hollande, qui était formidable dans la série de Nick, émouvant dans Moonlight, incarne un loser, mais alors vraiment antipathique et arrogant. Je ne parle même pas du scénario qui manque cruellement de ressorts créatifs, alors même qu'il brasse beaucoup de sujets, la passion, le deuil, les sacrifices secrets derrière toute réussite sociale, les crispations de la vie de couple, de famille, de groupe, tandis qu'un drame familial et un thriller se mettent en place maladroitement. L'aspect thriller avec le vilain serbe menaçant dans les coulisses, le duo de flics qui fait les questions et les réponses sans avancer dans son enquête, bref, on sent que ça intéresse beaucoup moins les auteurs que les scènes de répétition et d'improvisation où chaque instrument filmé en gros plan, mais très gros plan, hein, écrase les personnages au lieu de les révéler. Tous ces grands musiciens conversent chacun dans leur langue, étant entendu que la musique est un langage universel. Et à travers les solos de jazz, Jack Thorne nous montre comment leur façon de jouer ou de chanter dit quelque chose de leur passé, de leur histoire personnelle, avec des moments où leurs problèmes font qu'ils sont littéralement désynchronisés. Alors au cœur de cet ennui, il y a quand même quelques moments de grâce où l'expression créative prend forme à travers les rituels, notamment comme une cérémonie d'enterrement, un mariage, une fête. Et Chazelle, armé de ses deux Oscars, n'a heureusement réalisé que deux épisodes, mais clairement, il donne le ton à cette chronique prétentieuse qui brasse du vide dans une ambiance de happy hour dépressif qui ne m'a pas du tout réconcilié avec le jazz.
Au témoin d'un doute, chère Christine, c'était bien la version polie que vous venez de nous dire.
C'était la version diplomate.
Alors ne vous lancez pas effectivement dans une carrière de diplomatie, ce serait à mon avis un peu risqué. Benoît Lagane.
Alors, moi je ne serais pas aussi dur, hein. Je trouve qu'elle...
C'est difficile là où on en est.
Voilà. Bon, alors moi c'est une série que j'ai aimé suivre, hein. J'ai pas trouvé ça du tout désagréable à regarder, j'ai aimé l'ambiance, la dimension un petit peu embarquée, hein, de la réalisation, mais en revanche j'ai été un petit peu déçu sur la dimension musicale, parce que la série montre bien les musiciens et leur musique, mais elle ne fait pas assez vibrer et vivre la musique. Sur le côté coproduction internationale, pour une fois, moi je trouve que c'est réussi, hein. L'américain ne prend pas la main sur le français, il y a un bon équilibre comme ça entre les langues, et on est loin quand même du genre Gloubi-Boulga à la Versailles. Alors, il y a surtout pour moi un gros problème, c'est qu'on pense que c'est la série de Damien Chazelle. Eh ben non, c'est la série de Jack Thorne et Alan Poole. Il faut juste le dire. Et heureusement, quoi, parce que Les deux premiers épisodes réalisés par Damien Chazelle sont finalement assez ratés. Ça nous crée une ambiance, mais il n'y a pas d'effet narratif suffisamment fort pour qu'on tienne et pour qu'on enchaîne les épisodes. Outa Benyamina s'en sort beaucoup mieux, notamment grâce à cet épisode des obsèques, et où là, elle commence à faire vraiment vibrer la musique dans un épisode que je trouve très beau. Il y a une très grosse faiblesse dans l'épisode 4 où il y a cette construction par épisode où on nous raconte l'histoire de chaque personnage dans chaque épisode. Alors, c'est bien si on a des choses à dire sur les personnages, et l'épisode sur Maya est intéressant parce qu'ils ont des choses à dire sur ce personnage. En revanche, l'épisode 4 sur le fameux Jude contrebassiste, on s'en contrefou un petit peu parce que finalement, ce personnage n'a rien à dire. Au final, il faut patienter, il faut attendre un petit peu. Les moments de musique deviennent enfin à être passionnants. Je dirais presque qu'au bout du 5e, 6e, 7e et surtout 7e et 8e épisode, les deux derniers réalisés par Alan Poole, qui est en fait le maître d'œuvre de la série avec Jack Thorne. Et là, on sent que lui, qui a l'habitude des séries, il a travaillé sur Angela 15 ans, il a travaillé sur Six Feet Under, on sent que lui, il sait prendre cette histoire et faire enfin une série collective, enfin une série chorale, et enfin nous montrer la vie d'un groupe, alors que jusque-là, on avait juste ces personnages, pas tous très intéressants, que l'on suivait comme ça dans ce Paris. Mais voilà, une bonne curiosité, j'espère qu'il y aura quand même une saison 2 pour que ça continue sur le ton des deux derniers épisodes.
Marjolaine, on a eu un avis extrêmement négatif, ouais. On a eu un avis qu'on nous promettait positif, mais sur lequel il y avait quand même beaucoup de réserves. Hein. À vous de trancher.
Eh ben, moi, je vais trancher quand même plutôt du côté de Christine. Alors, pour moi, The Eddie, c'est le miroir inversé de Validé. Et je veux dire que moi, je parle en tant qu'amatrice de jazz. J'aime le jazz, je vais dans les clubs de jazz à Paris, etc. Et c'est pas du tout cette ambiance qu'on nous vend. Là encore, on joue avec les clichés, comme Validé joue avec les clichés, bien sûr. Mais si vous n'aimez pas le jazz et que vous êtes persuadé que le jazz, c'est une musique intello chiante avec des gens à deux de tension qui font avec l'air intello hyper inspiré quand ils écoutent un espèce de truc asynchrone et qui est très compliqué à comprendre quand on n'est pas dans ce truc-là. Non, le jazz, c'est pas ça. Et heureusement, dans la série, il y a quand même quelques petits moments de grâce. Je pense notamment dans le premier épisode, quand il y a la fille, notamment du musicien, qui va jouer avec des petits mecs de banlieue et qu'il y a l'influence hip-hop. Parce que le jazz, si ça a réussi à survivre depuis une centaine d'années, c'est grâce au métissage. Et aujourd'hui, le jazz se marie avec l'électro, se marie avec le hip-hop. Et c'est fun et c'est cool. Et moi, la dernière scène justement de musique où ils vont jouer dans la rue et avec cette impression de libération, moi j'ai trouvé ça hyper chiant et c'est tellement mieux en vrai. Donc allez dans les caves de jazz, vous allez voir, vous allez vous éclater, c'est hyper bien.
Excellente donc, recommandation.
Ouais, voilà. Pour revenir à la série, il y a un vrai problème d'écriture et c'est justement ce qui fait la différence entre Validé et The Eddie, c'est que Validé, il y a une vraie écriture, il y a une vraie histoire, il y a un savoir-faire, c'est formidable. Et effectivement, l'expérience de Gastambide dans la comédie potache lui sert à faire que ça tient. The Eddie, il y a rien qui tient. Et on est effectivement, ouais, peut-être dans du free jazz, mais encore une fois, c'est justement le jazz en est réduit à sa caricature. Et moi, j'ai du mal à pardonner ça, à pardonner des acteurs qui, normalement, sont formidables. Et là, on a l'impression qu'ils sont tous sous Tranxène. Enfin, voilà, je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée. Et en tant qu'amatrice de jazz, encore une fois, j'en veux beaucoup à cette série parce que j'avais, moi, bien aimé La La Land. Mais The Eddie.
C'est votre droit, on ne peut pas vous le contester. Voilà. Merci beaucoup à vous trois, c'était The Eddie ou ce qu'il en reste, en tout cas pas grand chose, sur Netflix depuis le 8 mai. When you kiss me in the morning, then you should call me late at night. I never tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving, it never stays away from me. I'm stuck by your side, that's the truth. Venons d'entendre Georgia Smith, la reine de la soul anglaise, qui nous interprétait Kiss Me in the Morning, un titre composé pour The Eddy. C'est son premier single depuis Be Honest, sorti en 2019, et qui avait été composé en collaboration avec Burna Boy. Ça avait été un gros, gros succès. Donc, on peut imaginer qu'avec Kiss Me in the Morning, elle amorce tout doucement son retour sur le devant de la scène, et on le souhaite.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan en mode confiné. Benoît, l'effet miroir devient l'effet Madeleine pour une plongée dans l'histoire du petit écran tricolore. Et cette semaine, direction Roland-Garros.
Oui, Xavier, oui, j'avais envie ce soir d'apporter un peu de réconfort, vous savez, à ceux qui espéraient revoir de la sueur et des larmes en direct des terrains Philippe Châtrier et Suzanne Lenglen. Alors pour ceux qui vont être en manque de Roland-Garros et de victoire française, ouais, il faut rappeler quand même que la dernière date en l'an 2000, c'était il y a déjà 20 ans et c'était Marie Pierce.
Oui, il faut bien fouiller dans la mémoire. Hein.
Voilà, je vous conseille une petite série, une petite Madeleine disponible sur la plateforme de l'INA. Cette série, c'est Jeu, Set et Match. Elle viendra peut-être compenser, qui sait, votre manque de terre battue, de raquettes, de personnalité du showbiz, prenant le soleil au rythme du son des petites balles jaunes, de cris d'effort jouissifs des tennismen et women, et même, qui sait, des commentaires de Nelson Montfort. Bon, ça, c'est pas sûr.
Non, ça, c'est pas sûr, hein, voilà.
Cette série, Xavier, n'est pas à confondre avec le manga japonais éponyme diffusé dans le Club Dorothée en 88 et qui était une sorte de Olive et Tom, Jeanne et Serge, coup de foudre au match de tennis. Non, la série Je sais tes matchs, c'était une mini-série en 4 épisodes diffusée le vendredi soir en 1985. Elle a été écrite par Joël Goron, qui a beaucoup œuvré comme scénariste pour la télévision, qui n'a pas été que la chroniqueuse de Froufrou et des émissions de Stéphane Bern. Et Je sais tes matchs était réalisé par le bien nommé Michel Wynn. Oui, pour une série sur le sport, ça ne s'invente pas. Hein.
Pas mal.
Michel Wynn, ce n'est pas n'importe quel réalisateur de télé, on lui doit La Demoiselle d'Avignon, Le 16 Acteurs Brillants ou La Cloche Tibétaine quand même. Donc Je sais tes matchs réunit d'abord une belle équipe de comédiens et comédiennes, Henri Guibé dans le rôle du père du jeune héros tennisman, Brigitte Rouen en belle-mère attentionnée, et puis quelques visages que l'on a plaisir à découvrir jeunes comme Hervé Pochon, bien connu des auditeurs d'Inter, dans le rôle d'un tennisman belge, ou encore Sophie Renoir, exfiltrée des films de Romère. Alors, dans le rôle principal, il y a Éric Vielard, qui incarne Arnaud Leroy, un jeune tennisman dont on va suivre la montée en puissance. Et la série est d'ailleurs rythmée par diverses phases de jeu, dans lesquelles le comédien est très convaincant, en rejoignant à la perfection les gestuels et les tics des joueurs de tennis des années 80. Arnaud Leroy a un faux air d'Arnaud Butch. Alors, on se dit que ce n'est pas un hasard, hein, puisque le tennisman junior de 16-17 ans, en 85, le champion du monde des jeunes, c'était Butch, et qu'à cette époque, le monde du tennis français misait vraiment beaucoup sur lui. Et dans Je sais tes matchs, tout commence d'ailleurs, donc pour le jeune héros, par le foot, oui, parce que le père aurait préféré que son fils embrasse une carrière à crampons, un sport populaire, sauf que voilà, Arnaud est plus de la raquette. Et la série raconte la montée lente...
Oh non, on ne peut pas valider ça, non.
Et la série raconte la montée lente, mais certaine, Xavier, du jeune Arnaud vers la victoire. Il va falloir gagner la confiance paternelle, s'imposer dans les cours en club, se faire une place au sein de la seconde sport-études puis de l'INSEP, et enfin accepter surtout le sacrifice qu'impose une vie sportive, alors qu'à 16-17 ans, on rêve de fêtes, de filles et plus si affinité. Et si le scénario n'est pas d'une grande originalité, en revanche, il dépeint un monde avec beaucoup de réalisme. Il faut dire que la série est soutenue par la Fédération française de tennis, qu'elle ne manque pas de moyens. Henri Lecomte fait une apparition dans son propre rôle. La série a pu même être tournée sur tous les terrains, et notamment dans le cours central de Roland-Garros. Et la star du journalisme sportif de l'époque, Gérard Holtz, est très juste dans le rôle de Gérard Holtz. Alors, avec le recul, cette série mérite au moins un coup d'œil, ne serait-ce que pour voir à l'œuvre le dernier vainqueur masculin de l'histoire de Roland-Garros. Oui, nous étions en 1985 sur Antenne 2, la chaîne qui diffuse le tournoi. Il faut dire que 2 ans avant, Yannick Noah était la coqueluche du tennis français et que sa victoire était encore dans toutes les têtes. Alors, à défaut de nouveaux grands chelems en 84, puis en 85 et même en 2020, c'est Arnaud Leroy qui s'impose sur le terrain de la fiction. Et regardez Je sais tes matchs sur le site de l'INA.
Merci beaucoup, cher Benoît. C'était l'effet miroir, l'effet Madeleine, une chronique à réécouter en podcast. Vous êtes bien sur France Inter dans une heure en série avec Benoît Lagan, Marjolaine Boutet et Christine Haas. Et nous allons parler de The Wall sur 13e rue, une série policière québécoise de 8 épisodes Bienvenue à Fermont, enfin, bienvenue est un bien grand mot, sauf si vous aimez les villes confinées toute l'année, encerclées par d'épaisses couches de neige et où la vie sociale se limite à un centre commercial situé en sous-sol, une ville sans âme, surnommée Le Mur, et dont l'activité professionnelle est entièrement régie par l'exploitation de la mine, une ville sans cimetière qu'à personne n'aurait l'idée folle d'y finir ses jours, et pourtant, un cimetière y serait fort utile car les morts vont vite s'accumuler dans cette cité sans histoire. Céline Trudeau, j'aime beaucoup le nom quand même du personnage principal, sergent détective venu de Montréal, est appelée pour enquêter sur la mort d'une jeune femme retrouvée dans un circuit d'aération avec un masque asiatique sur la tête, assassinée par une surdose de monoxyde de carbone.
On a trouvé un corps, sergent.
Où ça ?
À Fermont.
J'arrive. C'est ça le fameux mur ?
Oui, il y a la moitié de la population qui habite là-dedans. Le poste de police est là, en plus des écoles et de tous les autres services.
Une ville minière isolée. Un fait divers inexpliqué.
Pour le décès, t'as une cause probable ?
Ça a plutôt l'air d'une forme d'intoxication.
Un meurtre.
Ce qui est sûr, c'est qu'il vient de lui arriver la même chose que ce qui est arrivé à votre fils il y a 3 ans.
À vous glacer le sang.
Dis-le, le mot qu'on veut pas dire depuis tout à l'heure. Tueur en série.
The Wall, le nouveau thriller en 8 parties. Dimanche 26 avril à 20h55, en exclusivité sur 13e rue.
Une série signée Frédéric Ouellet, interprétée par Isabelle Richard et Alexandre Landry, diffusée hélas en version française, nous privant du plaisir d'entendre ce si chantant accent québécois, sauf quand c'est Céline Dion évidemment. Côté presse, bah oui, il fallait bien quand même un petit tac. Côté de la presse, Télé 7 jours parle d'une série dans l'esprit de The Killing, en plus glaçant, servie par des acteurs québécois affûtés. Le Québec, c'est votre truc. On va pas se cacher, hein. Donc Benoît, dites-moi ce que vous pensez de The Wall. Là, je vais vous prendre un courrier assassin, mais ça va être un bonheur.
Alors, j'ai beaucoup aimé The Wall. Justement, il n'y a pas que le doublage français, hein, c'est pas le titre original. Pourquoi se farcir un titre anglais pour une série francophone québécoise ? Le titre original, c'est La Faille. Alors, on aurait pu le rebaptiser Le Mur, hein, parce que c'est le décor de la série, ce fameux bâtiment, ce lieu où tous les personnages viennent se rencontrer. Donc, pourquoi pas ? Mais sauf que je trouve que le titre La Faille colle encore mieux à l'univers de la série, parce qu'elle renvoie à la dimension géologique, hein, et la série est construite autour de ce village où la mine joue un rôle important, un peu comme dans Brown, où le tunnel, un pont ou un tunnel pouvait servir de porte d'entrée à un univers polar. Mais une faille, on la creuse comme une enquête, et la faille, c'est aussi un défaut, une faiblesse, et tous les personnages de cette série n'en manquent pas. Alors, la série est haletante, le décor peut être trop rarement investi de ces grands nords québécois et utilisé à plein. J'ai vraiment beaucoup aimé, je suis très content de retrouver ces deux créateurs qui sont pas à leur première série dans le Grand Nord. Dans les années 2004, ils avaient signé Grand Ours, une série totalement étrange que je vous conseille de voir à l'occasion, où il y avait les télévisions qui ne s'arrêtaient jamais de parler. C'était assez étonnant. Et justement, en miroir de cette série Grand Ours, qui utilisait de l'humour, la seule faiblesse peut-être de cette série La Faille, donc The Wall, c'est peut-être le manque d'humour. Mais si on enlève cette absence, si on note cette absence, le reste est suffisamment haletant pour que l'on dévore les 8 épisodes. Moi, j'en aurais bien pris 2 de plus.
Ça fonctionne, c'est indéniable. Marjolaine Boutet, quelle est votre opinion par rapport à The Wall ?
Alors, c'est une série très classique qui effectivement fait penser à tous ces polars de scandinoires, The Killing, Brown, on en a déjà parlé. Et avec le charisme d'Isabelle Richer, vraiment, qui rappelle celui de Sitz Babette Knudsen de Borgen. C'est vraiment ces très belles femmes d'une quarantaine d'années. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, parce que le scénario est très classique, c'est la quête d'un serial killer, mais ce qui m'a plu vraiment, c'est ces personnages de femmes québécoises qui s'affirment, qui s'assument. Je trouve que la relation qui se noue entre justement l'enquêtrice et son jeune adjoint, bah c'est bien, parce que là encore, ça inverse le truc classique des polars où c'est un inspecteur un peu sur le retour qui va séduire la jeune enquêtrice débutante. Là, on inverse la relation. Et moi, c'est ça qui m'a plu. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse. Effectivement, pas d'humour, mais beaucoup de tendresse dans les personnages, dans leurs relations. Et vraiment, cette Céline Trudeau m'a fascinée. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir entendre les 3 premiers épisodes en VO. Et non seulement son accent québécois, mais en plus, elle a une voix beaucoup plus grave dans la réalité. Et ça lui donne un charme dingue.
Et quand on parle charme dingue, évidemment, ça tombe sous le sens. C'est Christine Haas qui intervient. Christine.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi aussi, ça m'a assez plu. Hein. The Wall, bizarrement, c'est vrai que cette structure de la ville de Fermont, elle évoque le mur de Game of Thrones. Hein. On y retrouve un peu la même ambiance glaciale hein, sur cette côte nord du Québec, à la frontière du Labrador. C'est vrai qu'on est véritablement séduit d'abord par l'ambiance, hein, ce grand nord canadien, le froid, la neige, les longues nuits d'hiver, les chapkas en fourrure, les caribous dans les bois, les loups aux abords de la ville, les balades en bâtonnage. Bref, je m'égare, j'aime beaucoup aussi. On aime les personnages qui s'appellent Bruno la Montagne ou Céline Trudeau, mm-hmm. hein, cette fliquette croqueuse d'hommes à qui l'enquête a été confiée, qui se trouve débordée. Mais c'est vrai que l'intrigue est bien ficelée entre les zones d'ombre de l'enquête et le passé des personnages. Moi, j'y vois quand même un humour accidentel, hein, parfois en dépit d'un rythme assez lent. On a des moments où... justement, le ton change quand Louis-Philippe Ricard, par exemple, fils de famille, annonce à sa petite fille « Papa s'est fait bobo » avec la tête de Jack Nicholson dans Shining. C'est dit que le récit amorce un tournant. Quand la coiffeuse exige de son amant « Fais-moi peur » en brandissant des menottes en fourrure rose, on s'inquiète quand même un peu pour elle en rigolant. Et quand l'officier de police tripatouille un grille-pain avec une pince sans l'avoir débranché, on se dit que c'est pas lui qui trouvera la solution. Et quand la fille de la fliquette en chef lui balance à sa maman, t'es pas qu'une sacrée salope, t'es aussi complètement folle, on comprend que la fliquette va devoir régler quelques problèmes personnels en plus de résoudre l'enquête. Donc en fait, c'est vrai que cet humour accidentel, il est là. Il y a quand même des moments extrêmement efficaces. Et moi, ça m'a bien amusé, bien plu. Et ça m'a même fait un petit peu peur.
Eh bien, je crois que nous sommes tous d'accord. The Wall sur 13e rue que nous vous recommandons.
Just a touch, baby. I look around, since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're.
D'entendre The Weeknd, je ne sais toujours pas comment prononcer le nom de ce chanteur qui interprète le tube du moment Blinding Lights, un chanteur canadien, deuxième single de son nouvel album After Hours, qui a décroché un numéro 1 aux États-Unis après l'avoir été aussi en France fin février. Le chanteur canadien de son vrai nom, Abel Tesfaye, c'est un petit peu plus facile à dire, alias donc The Weeknd, vous enlevez le E de Weeknd, travaille actuellement sur un projet de film avec Claire Denis et a fait savoir il y a quelques jours sur les réseaux sociaux qu'il adorerait apparaître dans un épisode des Simpsons. Bref, on l'adore.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure du plateau télé. Christine, vous dégainez en premier. On va essayer de faire synthétique Goliath sur Amazon Prime avec le toujours excellent Billy Bob Thornton.
Oui, donc la série américaine créée en 2016 par David E. Kelley a 3 saisons actuellement de 8 épisodes qui sont visibles sur Amazon Prime. La 4e est attendue et la série effectivement se concentre sur le personnage de Jimmy McBride, un avocat réputé mais tombé en disgrâce et qui va se transformer en avocat mercenaire, toujours prêt à défendre la veuve et l'orphelin face aux abus des entreprises immobilières, à exposer les secrets du monde politique, à se dresser face aux crimes des cartels. Bon, tout ça quand il ne passe pas ses journées à picoler dans le bar local ou à s'occuper des petites affaires minables. Bref, dans cette parabole du combat de David contre Goliath, le rapport de force sera toujours déséquilibré, tous les coups tordus seront permis, ses ennemis seront féroces. Et c'est vrai que Billy Bob Thornton, qui a reçu pour ce rôle le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique, incarne formidablement cet anti-héros à la dérive, déprimé et cool. Il est vraiment très attachant, d'autant plus qu'il fait équipe avec une bande de bras cassés fabuleux, une prostituée qui est également assistante juridique, une avocate irascible mais sexy, une secrétaire obèse mais très efficace. Tous ces personnages chaleureux et sympathiques, on va les retrouver à chaque saison. Ils vont nous permettre de respirer un peu parce que la série fait la part belle aux psychopathes, mégalomanes, fous et pervers de tout genre, le tout accompagné d'une distribution éblouissante hein, qui va de William Hurt à Maria Bello, Dennis Quaid, Griffin Dunne, Amy Brandman, Sherilyn Fell et beaucoup d'autres. Alors j'ajouterais juste que la première saison est assez classique et puis ça monte en folie. Hein. La seconde offre une collection effroyable de tortures et de perversions et la troisième part complètement en vrille avec des moments surréalistes à la David Lynch et tout ce beau monde donne un cocktail explosif. Cette série qui au départ pour moi n'avait rien de novateur est contre toute attente devenue très addictive.
Merci beaucoup Goliath sur Amazon Prime. Vous avez parlé de pervers et de psychopathes. On en a un, nous aussi, dont on aimerait bien se débarrasser, mais hélas, il a des dossiers sur nous, donc on est obligé de le garder. Benoît Lagane, vous nous commandez The English Game sur Netflix, la nouvelle série du très prolixe Julian Fellowes.
Oui, la nouvelle série du créateur de Downton Abbey, donc The English Game, l'occasion donc, pour les amateurs de sport et de foot en particulier, de regarder une série qui va leur rappeler pourquoi on a décidé de professionnaliser et de payer les premiers footballeurs en Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle. Alors, nous sommes en 1870, à la suite d'un match qui oppose une équipe d'ouvriers du nord de l'Angleterre et une équipe d'aristocrates d'habitude toujours triomphante. On voit que les ouvriers veulent en découdre pour montrer que le foot peut aussi être leur sport. Les bourgeois patrons d'usines se disent que ce sport peut être un moyen de mettre en avant leur ville, leur usine et offrir un peu de divertissement à leurs ouvriers surexploités. Et du côté des aristocrates qui n'ont pas besoin d'être payés pour aller sur le terrain, le foot est un passe-temps et ils ne sont pas encore prêts donc à céder ou à partager leur culture sportive. Toute la force de cette série en 6 épisodes est de montrer à quel point le foot, aujourd'hui un sport extrêmement populaire, est né dans l'aristocratie et comment il est devenu un enjeu, un lien social pour les industriels de l'époque. Comme dans Downton Abbey, bien évidemment, il y a question de lien entre les différentes classes sociales. Il y a des bons des deux côtés et des profiteurs, pas uniquement dans la haute. La reconstitution est impeccable, même si on aimerait y voir un peu plus de foot et de phase de jeu. La série n'a pas pour but de revenir en saison 2. Et c'est une mini-série en 6 épisodes. Elle se tient bien comme ça, mais on regrette presque tant on aurait tant aimé suivre ces personnages pendant plus de temps et suivre leur histoire de révolution industrielle, culturelle et sportive. C'est vraiment très chouette. Et c'est sur Netflix en ce moment.
Je suis entièrement d'accord. Moi qui n'aime pas du tout le foot et qui n'ai jamais dû en regarder plus 3 minutes dans ma vie, je me suis vraiment passionné et je suis d'accord avec vous sur la dimension sociale, politique et sur ce moment de charnière où le football qui ne devait être que bénévole parce que noble est devenu effectivement un sport payant et extrêmement lucrativement rémunéré. Merci beaucoup pour cet excellent conseil. Un peu de douceur, enfin encore quoique, avec Marjolaine, c'est pas vous évidemment, mais la série dont je parle, Unorthodox sur Netflix, avec pour moi, la révélation, et j'insiste vraiment sur la révélation de l'année en termes de comédienne, je ne l'avais pas vue jusque-là. Elle s'appelle Shira Haas, elle tient le rôle principal. Je vous laisse évidemment en parler dans quelques secondes, mais pour moi, c'est vraiment la découverte de l'année en termes de comédienne.
Oui, alors douceur, je ne suis pas d'accord. Mais bon, Unorthodox, donc c'est une mini-série en 4 épisodes. Et attention, tous les gens que je connais, quand ils ont commencé le premier épisode, ils sont allés jusqu'à la fin. Donc prévoyez 3h30 devant vous, parce que vous allez vous coucher très tard. C'est inspiré d'une histoire vraie, de comment donc l'écrivaine Deborah Feldman a échappé à la communauté ultra-orthodoxe des Satmars, donc à Brooklyn. Donc, les Satmars, c'est une communauté qui a été fondée par un survivant de la Shoah et un survivant hongrois de la Shoah. Donc, pour revenir là-dessus, la communauté juive hongroise, ça a été la communauté qui a été exterminée le plus rapidement de tous les juifs d'Europe, plus de 400 000 morts exterminés à Auschwitz en quelques mois à peine. Et donc ce rabbin qui a survécu à cette extermination décide de fonder à Brooklyn une communauté dont le but unique est de ressusciter les 6 millions de morts. Et donc, cette responsabilité pèse à la fois sur les hommes et sur les femmes, mais en particulier sur les femmes. Et c'est l'histoire donc de cette jeune Esther Shapiro, dite Etsy, qui, à 17 ans, est mariée à un homme qu'elle ne connaît pas, avec pour vocation unique d'enfanter 6 millions de victimes. Donc, ce poids de la Shoah, il est permanent, il est extrêmement fort. C'est aussi une série sur le rapport entre la tradition et la modernité et ces groupuscules radicaux et leur refus du monde réel. Et puis, c'est évidemment au sein de tout ça l'histoire d'une libération, d'une femme qui littéralement trouve sa voie avec la dernière scène qui est littéralement déchirante, mais qui trouve sa propre voie, qui trouve sa place. Je trouve que c'est aussi une série qui est, parce qu'on l'a qualifiée de, enfin, dans la communauté juive, c'est un peu compliqué, mais je trouve que justement, ça montre au contraire la diversité de la communauté juive et ça permet d'aller au-delà des clichés de « ils sont tous pareils » parce que son trajet l'emmène à Berlin, qui est montré comme à la fois une ville, évidemment, où la Shoah est partout, où le passé nazi est partout, mais à la fois qui est une métropole multiculturelle où on fait de la musique, et ça, c'est classique, cette opposition entre l'Allemagne de Mozart et Beethoven et l'Allemagne nazie, bien sûr. Elle rencontre notamment donc des musiciens et une jeune israélienne, et on voit très bien que les Juifs, c'est aussi la modernité et c'est pas que cette communauté-là. Et puis enfin, le personnage de Yankee, donc son mari, qui lui aussi, finalement, va évoluer au cours de la série et va apprendre à regarder sa femme, bon, finalement, au moment où il la perd. Pardon pour le spoil, mais c'est très,
non,
très beau.
Non, on le comprend vite, rassurez-vous, Marjolaine.
Voilà, oui. On voit bien que ces rites, et qu'on retrouve dans toutes les religions qui tendent à oppresser les femmes pour le contrôle de corps et de la reproduction, oppressent aussi finalement les hommes qui ne peuvent pas être autre chose que ce qu'on attend d'eux. Et c'est vraiment un bel hommage, je trouve, à la tolérance, au dialogue et à s'écouter. Puisque là encore, il est question de voix, de chant et de prise de parole. Enfin, c'est vraiment sublime comme série et je pèse mes mots.
Magnifiquement défendu. Merci beaucoup, Marjolaine. Quand je parlais de douceur, c'est à vous, évidemment, que je faisais référence. Non, non, excellent choix. Merci pour ce très beau plateau télé et de vos conseils tout à fait remarquables. Une heure en série en mode confiné, c'est fini. Mille merci à vous trois d'y avoir participé. Mille merci à vous toutes et tous de l'avoir écouté. Cette semaine, nous vous avons recommandé Validé sur Canal+, un peu moins The Eddy sur Netflix et complètement The Wall sur 13e rue. La semaine prochaine, nous évoquerons entre autres The Act sur Canal+ et Into the Night sur Netflix. Demain, je vous invite à retrouver Jérôme Garcin à 11h et à 20h pour Le Masque et la Plume, qui sera consacré au cinéma. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, tout comme la chronique L'Effet Miroir de notre ami Benoît Lagarde. Il y a un site internet, envoyez-nous du courrier, bien évidemment. Tout ça est un peu compliqué en ce moment, mais on y arrive et c'est un immense plaisir que d'avoir de vos nouvelles. Cette semaine, une heure en série a été réalisée par David Leprince et qu'il soit remercié de son aide. La programmation musicale assurée par Muriel Pérez et j'ai eu le plaisir de préparer cette émission avec Amel Keldi.